Les hommes aux semelles de vent. Une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, la fondation de la Nouvelle-France. Le 19 mars 1534, le navigateur breton Jacques Cartier reçoit la mission de faire le voyage au royaume des Terres Neuves pour découvrir certaines îles et pays où l'on dit qu'il se trouve grande quantité d'or et autres richesses. Ainsi commence l'exploration des côtes canadiennes et du golfe du Saint-Laurent, que Jacques Cartier sera le premier à cartographier. 70 ans plus tard, le 15 mars 1603, Samuel de Champlain, nommé géographe du roi, part sur les traces de Jacques Cartier dans le but d'établir un site permanent où installer les premiers colons français sur le Nouveau Monde. Il fondera Québec et restera dans l'histoire comme le père de la Nouvelle-France. Avec l'historien Jean-François Mouhot, revisitons l'époque où la France prétendait étendre son influence sur la moitié du continent américain, du Canada à la Louisiane, l'époque où elle fondait la Nouvelle-France.
Entre tous les arts les plus utiles et excellents, celui de naviguer m'a toujours semblé tenir le premier lieu. Car autant est-il hasardeux et accompagné de mille périls et naufrages, autant est-il aussi estimé, n'étant aucunement convenable à ceux qui manquent de courage et d'assurance. Par cet art, nous avons la connaissance de diverses terres, régions et royaumes. Par cet art, nous attirons et apportons en nos terres toutes les richesses. Par cet art, le christianisme est annoncé en tous les endroits de la terre. C'est le goût de cet art qui m'a exposé toute ma vie aux ondes impétueuses de l'océan et qui m'a fait côtoyer une partie des terres de l'Amérique et principalement de la Nouvelle-France, où j'ai le désir de faire fleurir le lys avec l'unique religion catholique, apostolique et romaine, avec l'aide de Dieu et la faveur de votre majesté.
Les expéditions de Jacques Cartier, comme les expéditions des explorateurs partis plutôt du Portugal, d'Espagne et d'Angleterre, ont plusieurs motifs. D'abord, une volonté de connaissance géographique et d'expansion de la présence, tous les pays européens étant en compétition plus ou moins les uns envers les autres pour une certaine hégémonie en Europe et ailleurs. Il y a déjà une volonté expansionniste qui fait que ces États européens recherchent à s'étendre dans d'autres contrées. Il y a des volontés bien sûr commerciales également, on recherche la route de l'Inde, et d'ailleurs Jacques Cartier cherche ce passage vers la Chine. Il y a d'ailleurs un endroit de Montréal qui continue jusqu'à ce jour à s'appeler la Chine, parce que on croit que juste derrière il va y avoir la Chine et les Indes. Et puis il y a aussi une volonté très présente d'évangélisation. On est en pleine contre-réforme, réforme contre réforme, avec une volonté justement de répandre l'évangile aux quatre coins du monde. Toutes ces choses que je viens d'évoquer donc participe à cette volonté d'aller explorer et coloniser la Nouvelle-France. Rapidement, on se rend compte qu'en Nouvelle-France, il y a aussi une richesse tout à fait intéressante et qui est un peu particulière à l'Amérique du Nord, c'est notamment la richesse en fourrure, puisque le castor d'Europe a été plus ou moins exterminé au cours du Moyen-Âge, pour des tas de besoins, notamment en chapeaux en Europe. La vogue de la fourrure de castor connaît une expansion très rapide après la découverte de gisements, entre guillemets, de ces fourrures qui sont récoltées en général par les Amérindiens et qui sont revendues aux Français qui viennent s'établir sur place, qui sont au départ essentiellement des commerçants qui viennent pour échanger des fourrures de castor contre des fusils, des objets divers manufacturés en Europe. Et puis, il y a aussi des grands bancs de poissons qui sont au large notamment de Terre-Neuve, qui sont exploités depuis le XVIe siècle, peut-être même avant, qui sont une richesse aussi importante, puisque l'Europe souffre de manière un peu chronique de manque de protéines animales. Et ces poissons sont séchés ou salés au large de Terre-Neuve et donc contribuent aussi à l'alimentation de l'Europe, notamment les fameux bancs de morue au large de Terre-Neuve. Donc cette entreprise de colonisation française en Nouvelle-France vise aussi à établir aussi une base arrière pour ses pêcheries.
Le 7e jour d'avril 1604, notre vaisseau, le Don de Dieu, partit du Havre bien équipé et ravitaillé pour 2 ans avec à son bord chèvres, porcs et autres animaux emportés pour les multiplier dans le pays. Avec un vent d'ouest, nous fûmes portés au nord, naviguant avec temps bon et vent frais. Nous voguâmes sans rencontrer de glace et le 8 de mai, nous eûmes connaissance d'un cap joignant la côte d'Acadie par les 44 degrés 5 minutes de latitude et 16 degrés 15 minutes de déclinaison. À l'est de ce cap, il y avait quantité d'anses très belles. On y trouve force maquereaux, brochets, truites, bars, saumons et éperlans aussi bons qu'en la rivière de Seine. Le pays était beau et plaisant, tout couvert de grandes et hautes forêts où il y a grand nombre de cerfs, daims, ours et autres bêtes. Le terroir était un des meilleurs que j'ai vus. Il y avait force groseilliers blancs et rouges, fraisiers, framboisiers et blés sauvages qui semblaient avoir été semés et labourés. Nul doute qu'il s'agissait là de la terre que Dieu donna à Caïn.
La colonisation, donc à la suite des premiers explorateurs, au départ, donc n'est pas une colonisation de peuplement. Hein, c'est une colonisation plutôt de type comptoir, où justement l'État se contente d'encourager timidement l'établissement de comptoirs. On est un peu déçu de ne pas avoir trouvé de métal précieux. On est aussi déçu de ne pas finalement avoir trouvé une route vers les Indes, vers la Chine. Les autorités métropolitaines, on peut pas dire que elle s'intéresse de façon démesurée à la Nouvelle-France, mais quand même, elles encouragent progressivement l'établissement d'une base arrière et la colonisation, qui soit aussi un soutien à l'évangélisation, hein, puisqu'on a aussi un certain nombre de missionnaires qui partent évangéliser. Et donc, il faut assurer la base arrière pour ces marchands de fourrure, il faut assurer l'approvisionnement, y compris d'ailleurs, le Canada est envisagé comme étant un lieu qui pourrait potentiellement alimenter les colonies des Antilles en blé et en autres matériaux, en bois, en matériaux de construction, etc. Ce qu'il est dans une certaine mesure. La façon dont le gouvernement cherche à encourager cette colonisation timide, c'est par le biais de l'envoi principalement d'engagés. Alors les engagés, ce sont des personnes qui sont recrutées en France pour aller travailler une période de entre 5 et 3 ans. Progressivement, ça deviendra un peu la norme. On les appelle les 36 mois. C'est des gens à qui on paye le voyage, qui reçoivent un petit salaire et qui ensuite souvent négocient également l'assurance de pouvoir rentrer en France à l'issue de leur séjour de 3 ans. Et d'ailleurs, beaucoup rentrent entre, suivant les chiffres des historiens, entre 50 et 70% des migrants en Nouvelle-France rentrent en France.
Le 3 de juin, nous arrivâmes devant Tadoussac, qui est comme une anse à l'entrée de la rivière du Saguenay. C'est une belle rivière, de grande profondeur, qui va au travers des terres jusqu'à la pointe de Québec, ainsi nommée par les sauvages. Nous y trouvâmes une fort belle et grande baie pleine d'îles et de bonnes entrées, que nous nommâmes Baie Saint-Laurent. Aussitôt débarqué à Québec, je cherchais un lieu propre pour notre habitation. Je fis couper et défricher le bois pour rendre l'endroit prêt à y bâtir une bonne et forte habitation qu'avons nommée la Place Royale. Puis chacun commença à faire des cabanes selon sa fantaisie. On fit aussi un four et un moulin à bras, puis quelques jardinages. On sema des graines de choux, navets, laitues et autres, qui sortirent toutes en perfection et en peu de temps, ce qui démontre la bonté de la terre.
Tout au long de l'histoire de la colonisation française en Amérique du Nord, il y a de nombreux conflits entre Français et Anglais, Anglais-Espagnol, Français-Espagnol. Donc des guerres à répétition qui font de nombreuses victimes et qui sont aussi source d'immigration importante, puisque on sait maintenant qu'une grande partie, peut-être même le contingent le plus important de colons français, c'est des colons venus par le biais de l'armée. Hein. Alors en fait, on se rend compte que si on regarde un petit peu dans le détail, la plus grande partie des Français qui sont venus en Nouvelle-France ne l'ont pas choisi. Ils sont soit venus comme engagés, donc on l'a dit, Ils sont venus aussi comme militaires, donc n'ayant pas choisi leur affectation, hein, ils étaient envoyés sur place, souvent contre leur gré. Il y a de nombreux témoignages qui racontent que les gens qui apprennent qu'ils partent pour le Canada cherchent à s'enfuir des bateaux qui partent pour le Canada. Il y a une image du Canada qu'on connaît pas très bien, mais on a certains indices qui laissent penser que les personnes qui, parmi la population française, ont entendu parler du Canada, en ont une image d'un désert inculte, froid, hostile à la vie, et donc difficile d'imaginer d'y partir de son bon gré. Donc c'est pas vraiment une émigration choisie, au contraire de l'émigration vers la Nouvelle-Angleterre. Les émigrants qui partent au Canada n'ont pas en plus le droit, ils doivent solliciter l'autorisation du gouverneur pour revenir en France, parce que c'était un peu un piège de se retrouver au Canada, on risquait de ne pas pouvoir en repartir. Donc il y a une espèce d'image un peu négative, de conditions de vie très difficiles, d'hiver interminable, qui laisse entendre que le Canada est un pays difficile. Malgré quand même de nombreux avantages par rapport à la France, et on sait maintenant que les conditions de vie des colons en Nouvelle-France, c'est plutôt des conditions de vie matériellement, bon, après les périodes très difficiles de défrichement, mais une fois que la colonie commence à croître, ce sont des conditions de vie quand même assez bonnes par rapport à la France. Il y a l'abondance de bois qui, à l'époque, c'est notre pétrole, hein, on fait tout avec le bois, et les colons peuvent aussi chasser librement, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire en France. Il y a du gibier abondant, il y a de la pêche abondante. Voilà, donc c'est des conditions de vie qui sont finales, pas forcément, même probablement meilleures qu'en France, mais il y a eu toute cette image un peu négative qui a été colportée en France, sur le Canada, qui sont autant de freins vers l'immigration.
Depuis la mi-novembre jusqu'au 15e jour d'avril, nous avons été continuellement enfermés dans les glaces, lesquelles avaient plus de 2 brasses d'épaisseur, et sur la terre, il y avait la hauteur de 4 pieds de neige et plus. Tout le fleuve était gelé, tout comme le cidre et le vin contenus dans les fûts. Plusieurs compagnons qui burent de l'eau de neige devinrent malades, de la manière la plus étrange qui soit. Au mois de décembre, le scorbut commença parmi nous. Les uns perdaient leur force, les jambes leur devenaient enflées ou parsemées de gouttes de sang comme de la pourpre, les nerfs noircis comme du charbon. Puis, la dite maladie montait aux hanches, aux bras, aux épaules et au cou. La bouche devenait si infecte et pourrie par les gencives que les dents tombaient presque toutes. À la mi-février, sur 110 hommes que nous étions, moins de 10 étaient encore sains. Il y avait déjà près de 25 morts qu'il nous fallut mettre sous les neiges, car il n'était pas possible alors d'ouvrir la terre gelée, tant nous étions faibles. Nous avions quasi perdu l'espérance de jamais retourner en France, si Dieu, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, ne nous eût pris en pitié et donné connaissance d'un remède contre toute maladie, le plus excellent qui fût jamais vu ni trouvé sur la terre. Après avoir bu des feuilles de sapin du Canada bouillies dans l'eau, tous les malades recouvrèrent santé et guérison grâce à Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile d'attirer les immigrants et de les y maintenir? Alors, on voit que l'État joue un rôle un petit peu ambivalent dans cette colonisation pour une raison principale qui est bien connue, qui était une crainte généralisée de la dépopulation de la France. C'est-à-dire que au XVIIIe siècle, mais même aussi au XVIIe siècle, la plupart des philosophes des Lumières étaient convaincus d'une chose qui était fausse, mais il n'y avait pas d'études démographiques et statistiques à l'époque, bien sûr, pour se convaincre du contraire, c'est que la France se dépeuplait. Et il ne s'agit pas du tout, aux yeux de la France, de risquer de dépeupler la France davantage pour peupler le Canada. Donc c'est là où le gouvernement encourage au contraire l'accroissement naturel. Ça peut expliquer en partie les causes de ces difficultés migratoires vers la Nouvelle-France, hein, puisque donc la Nouvelle-France attire peut-être un maximum de 30 000 migrants au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, ce qui est vraiment une fraction Quand on compare, par exemple, aux migrations vers la Nouvelle-Angleterre, hein, pour la période antérieure à 1760, selon deux historiens, environ 450 000 Britanniques auraient émigré en Amérique du Nord, par comparaison avec donc 30 000 Français. Hein, vous voyez donc une énorme disparité. C'est vrai que le gouvernement métropolitain cherche à garder ses colons sur place, mais ne réalise pas qu'un des gros freins, c'est justement le manque de conjointes sur place. Alors à quelques reprises, des historiens ont pu étudier que quand il y avait une arrivée de femmes, alors l'État sponsorise l'immigration à plusieurs reprises de ce qu'on a appelé les filles du roi, c'est-à-dire un certain nombre de femmes qui sont essentiellement recrutées dans des couvents ou dans des orphelines, etc., qui sont recrutées par le roi pour aller peupler la Nouvelle-France. Et chaque fois qu'il y a des envois de familles ou de femmes en Nouvelle-France, le taux de rétention de la colonie est immédiatement décuplé.
Depuis notre arrivée, nous avons conversé avec les peuples les plus proches de nos navires, avec douceur et amitié. Ces Iroquois étaient fort basanés et d'assez belle corpulence, mais effarouchés et sauvages. Ils avaient les cheveux liés sur la tête, à la façon d'une poignée de foin tressée, à laquelle ils attachaient quelques plumes d'oiseaux. Hommes et femmes étaient accoutrés de peaux de castor et autres fourrures, le visage peint de couleurs rouges, noires et jaunes. Ils avaient des barques faites d'écorces de bois de bouleau, avec lesquelles ils allaient à la mer. Ce dit peuple vivait quasi en communauté de biens et n'avait point de retraite arrêtée. Ils hivernaient tantôt en un lieu, tantôt en un autre, où ils voyaient que la chasse était meilleure et ils ne mettaient rien en réserve pour subvenir aux disettes, pourtant grandes quelquefois. Ils nous troquèrent leurs arcs, flèches et carquois pour des épingles, des boutons et quelques autres bagatelles dont ils furent fort contents. On les reçut fort humainement et on leur fit bonne chère.
Alors je crois qu'il faudrait faire la distinction entre la colonie donc laurentienne autour de la vallée du Saint-Laurent, où là, les influences du mode de vie amérindien sont à mon avis très limitées, mais il faut effectivement bien faire la différence avec les trappeurs, ce qu'on appelle les coureurs des bois, qui vivent eux effectivement au contact des Indiens directement et qui vivent souvent avec les Indiens dans l'arrière-pays, on va dire, de la colonie laurentienne, à la recherche principalement de fourrures. Hein. Et alors ceux-là, évidemment, sont effectivement grandement influencés parce qu'ils sont obligés de vivre avec les Indiens. Donc ils sont obligés de s'inspirer, entre guillemets, de leur méthode de survie, de fonctionnement. Mais on sait peu de choses sur la manière dont éventuellement ces modes de vie pourraient également pénétrer les pensées, les comportements de ces coureurs de bois. On peut le présumer, mais on n'a pas vraiment de sources qui en parlent. Les historiens canadiens ont relevé à de nombreuses reprises des morceaux de phrases qui sont plus des boutades un petit peu, qui parlent du fait que les Français arrivant au Canada deviennent des sauvages, hein, qui est le terme utilisé à l'époque pour désigner les Indiens. Marie de l'Incarnation, notamment, dit à un moment donné dans une de ses lettres que les Français deviennent plus rapidement sauvages que les sauvages deviennent Français. Hein. Elle, en tant que religieuse, est là pour évangéliser, donc, entre guillemets, franciser ces Amérindiens. Or, elle constate dans cette lettre l'inverse. Mais il faut aussi se rappeler que pour les Français qui allaient en Nouvelle-France, le désir qui primait, c'était celui, au contraire, de ne pas s'ensauvager, de rester des Français ordinaires d'une certaine façon, même si c'est anachronique de parler de Français à l'époque au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, où il y avait énormément de provinces en France qui ne parlaient pas du tout français. Hein. Les Bretons parlaient breton. Il y avait une multitude de langues régionales qui faisaient qu'il n'y avait pas véritablement d'uniformité linguistique. Mais la crainte principale, c'était par exemple de ne pas perdre la foi, de ne pas s'ensauvager de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, une des demandes récurrentes des colons, c'est d'avoir des missionnaires qui viennent pour assurer justement la présence de la religion catholique sur le sol de la Nouvelle-France. Parce que leur crainte majeure, c'est de se retrouver dans une situation, par exemple, où il n'y aurait pas de prêtre pour donner des sacrements et faire qu'ils ne puissent pas recevoir, par exemple, l'extrême onction et risquer le purgatoire ou l'enfer dans cette situation.
Étant au milieu de ces sauvages vivant de superstitions et autres fausses croyances, nous prétendions communiquer avec eux, espérant avec le temps pacifier les guerres continuelles auxquelles ils se livraient les uns les autres pour en tirer à l'avenir du service et les réduire à la foi chrétienne. Ils ne savent ce que c'est que d'adorer et de prier Dieu, mais ils croient en l'immortalité des âmes et que, quand ils trépassent, ils vont aux étoiles, descendent sur l'horizon, puis s'en vont dans de beaux champs verts, pleins d'arbres, de fleurs et de fruits somptueux. Aussi, je crois qu'ils seraient bientôt réduits à notre sainte religion si on habitait et cultivait leurs terres, ce que la plupart désirent.
Il faut imaginer que les relations avec les Iroquois et les Indiens, d'une manière générale, étaient plus pacifiques en général que dans les colonies nord-américaines, des 13 colonies de ce qui deviendra ensuite les États-Unis. Mais elles étaient quand même régulièrement conflictuelles, il y avait des raids, etc. Et d'ailleurs, la peur des Iroquois était une des craintes majeures qui était un des freins à l'émigration vers la Nouvelle-France. Donc il faut bien voir déjà que les transferts culturels, ils étaient dans un contexte quand même souvent d'hostilité, de crainte, d'une petite population fragile et minoritaire sur un petit bout de France au nord d'un continent. Et ce petit noyau fragile était dans la crainte un peu perpétuelle de ses voisins amérindiens. Alors, la colonie française en Amérique du Nord au début du XVIIIe siècle, c'est le noyau dur, c'est donc la vallée du Saint-Laurent, qui est donc principalement autour des trois implantations de Montréal, Trois-Rivières et Québec. Donc c'est une population relativement petite, autour de 65 000 personnes au moment de la conquête de la Nouvelle-France par les Anglais en 1759-1760. Par opposition à ça, les colonies britanniques représentent environ 1 500 000 personnes. Donc on voit bien tout de suite la différence numérique énorme. Alors, à côté de ce centre-là, existe un certain nombre de petites périphéries. Il existe donc notamment la périphérie de l'Acadie, qui fait théoriquement partie de la Nouvelle-France, mais qui, en réalité, a une histoire assez distincte, parce que rapidement, elle est conquise déjà par l'Angleterre, qui prend possession officiellement de l'Acadie en 1713, au traité d'Utrecht. Et puis, il y existe aussi tout ce qui s'appelle le pays d'en haut, et tous les comptoirs français dans l'arrière-pays, qui est essentiellement, on va dire, la vallée du Mississippi, la zone des Grands Lacs, même si il y a eu un débat mémorable il y a quelques années entre un historien franco-canadien qui s'appelait Jacques Mathieu et un historien anglais sur justement comment colorer les cartes de l'Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Est-ce que il faut colorer l'ensemble quasiment de l'Amérique du Nord comme étant sous contrôle français, comme certains historiens franco-canadiens le faisaient, ou est-ce qu'il est plus juste et plus raisonnable de dire que la France, en fait, c'était essentiellement la vallée du Saint-Laurent, l'Acadie, la Louisiane et quelques comptoirs dans le reste de l'immensité nord-américaine.
Je fis planter une croix de cèdre blanc avec les armes de la France et un écusson sur lequel était écrit « Franciscus Primus, Dei Gratia Francorum Rex, Regnat ». Je priais les sauvages de bien vouloir la conserver, comme toutes celles qu'ils trouveraient le long des chemins où nous étions passés. Ils me promirent de le faire.
Charge it!
À partir de 1756, la guerre reprend entre la France et la Nouvelle-France. Et les Anglais décident d'en terminer avec la Nouvelle-France, qui est une espèce de base arrière de raids fréquents contre les colonies anglo-britanniques. Donc les Anglais ont une supériorité militaire et numérique et aussi navale considérable sur la France, puisqu'ils ont une base arrière de 1,5 million de colons en Nouvelle-France, des navires nombreux, des ressources bien supérieures, et puis une maîtrise des mers que n'ont pas les Français. Et donc, ils mettent le siège à Québec et prennent d'abord Québec, puis Montréal, entre 1759 et 1760. Et ils permettent à la population française de rester vivre au Canada plutôt que de repartir en France. Dans un premier temps, donc, suite à la chute de la Nouvelle-France, la population française, dans son immense majorité, décide de rester sur place. Il y a à peu près 3000 quand même Canadiens qui décident de rentrer en France, principalement des officiers, des nobles, des gens qui travaillent dans l'administration, qui avaient des liens directs avec l'administration. Mais la plupart des colons, des habitants, comme on les appelle, c'est-à-dire les paysans, qui forment la majorité de la population à cette époque-là, décident de rester sur place. L'administration devient britannique, mais les Français gardent à la fois l'usage de leur langue, l'usage également de la religion catholique qui est garantie par les traités, et aussi l'usage du droit français, puisque la common law britannique n'est pas appliquée au Québec. Donc il y a une cohabitation qui se fait. Alors ça serait un petit peu compliqué de refaire toute l'historique de ces relations, mais en tout cas, ce qu'il faut dire simplement, c'est que la langue et la culture française vont perdurer bien au-delà de la conquête britannique et perdurent encore de nos jours, puisque le Québec est une province donc qui est en très grande majorité peuplée de francophones, c'est plus de 7 millions d'habitants maintenant, et ces francophones ont conservé bien sûr l'usage de la langue et une certaine autonomie au sein du Canada, qui conduit également la province du Québec à être la seule province francophone du Canada. Il y a eu bien sûr des référendums au Québec pour demander à ce que le Québec se sépare du reste du Canada. On se rappelle des épisodes dans les années 70 du Front de libération du Québec avec un certain nombre d'actions violente de la part de ce Front de libération, et le Parti québécois, qui est toujours très présent dans la vie provinciale au Québec, a peut-être, enfin là je n'ai pas suivi l'actualité précisément, mais il avait encore récemment l'ambition de demander à terme l'indépendance du Québec par rapport au Canada. Mais les référendums qui ont lieu à ce sujet pour l'instant ont invalidé cette option, puisque pour l'instant une majorité de Québécois préfèrent rester... Petite majorité, mais une majorité quand même de Québécois ont préféré rester à l'intérieur du Canada.
Il m'est agréable de penser qu'il existe dans notre Commonwealth un pays où je puis m'exprimer officiellement en français, une des langues les plus importantes de notre civilisation occidentale. Entre compatriotes, nous devons nous expliquer et présenter sans passion notre point de vue, tout en respectant l'opinion des autres. Que le dialogue reste ouvert et il tendra à unir les hommes de bonne volonté.
Merci à Jean-François Mouhot, docteur en histoire à l'Institut universitaire européen de Florence et auteur notamment d'un article intitulé « L'influence amérindienne sur la société en Nouvelle-France » paru en 2002 dans la Revue internationale d'études québécoises. Merci également à Mohamed Rouabi d'avoir mis du vent dans nos voiles avec ses lectures librement adaptées des Voyages au Canada de Jacques Cartier et Samuel de Champlain. Les Hommes aux Semelles de Vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand, enregistrement Pascal Bénard, Pierre Mine et Didier Lorenzi. Mixage, Éric Boisset. Demain dès midi, nous vous ferons revivre le grand dérangement des Acadiens, le drame fondateur de l'identité acadienne. Merci de votre fidélité et à demain sur France Culture.